Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Elles sont avec nous en ce samedi 17 octobre. Laetitia Krupa, journaliste politique. François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Et Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique, président de MCBG Conseil. Samuel Paty rejoint le mémorial des victimes de l'islamisme. Vous aviez commencé de le dire, François, tout à l'heure, aux côtés des journalistes, des dessinateurs de Charlie, de la policière de Montrouge, des Français juifs de l'hypercachère, de ses promeneurs sur la promenade des Anglais le 14 juillet à Nice. C'est un nouveau martyr. Comment soutenir ces professeurs face à cette horreur, à cette barbarie? Emmanuel Macron était sur les lieux du crime hier à Conflans-Sainte-Honorine.
Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres.
Oui, mais comment on les protège? Comment on les aide, ces professeurs? François Claus, vous n'avez pas réagi sur le sujet encore, je vous donne la parole, face à ces élèves qui, par transmosition parfois de l'idéologie de leurs parents, refusent des cours obligatoires dans l'enceinte de l'établissement, dans le cœur de cette école de la République.
Comme le disait Philippe Moreau-Chevrolet, en leur donnant des moyens déjà. En leur donnant des moyens, ces enseignants à qui, et c'est là où cet attentat fait très très mal, c'est qu'on s'est attaqué au cœur de ce que, à un moment donné, on a mis en place post-Bataclan, enfin, avec retard, ces fameux cours d'ECM, d'éducation civique et morale. C'est un professeur qui enseignait cette matière-là. Ça veut bien dire qu'on touchait là, tout à fait, de manière tout à fait juste à ce qu'il fallait faire. Il y avait eu un cours sur la chrétienté avant, il y avait un cours là sur les mille et une nuits après. Bref, on ouvrait les enfants à ces lumières-là, et les lumières ne sont pas toujours allumées à la maison, malheureusement, à côté. Et pour avoir parlé avec une enseignante qui travaillait dans un collège d'Aubervilliers, elle me racontait comment, après le Bataclan, des enfants de 6e, je dis bien de 6e, venaient leur dire « Mais pourquoi il y avait des femmes sur les terrasses des cafés ce soir-là à Paris? Est-ce qu'elles ont le droit d'aller boire des verres le soir sur une terrasse de café ?» C'est vous dire le travail qu'il y a à faire et donc les moyens à donner. Oui, rendons cette éducation civique et morale absolument obligatoire. Mettons des caricatures dans toutes les classes. Remettons des profs là où il faut en mettre. Remettons des classes de 15 élèves. On ne gagnera cette bataille. On ne la gagnera que comme ça. Bien sûr, l'aspect sécuritaire, l'aspect du renseignement, les réseaux, il faut les infiltrer. Bien sûr, la géopolitique face à des pays comme le Pakistan qui brûle les drapeaux français ou comme l'Égypte avec aujourd'hui l'université Al-Azhar, grande référence dans l'islam qui vient parler de propos racistes quand le président français est là pour venir dire qu'il faut tout simplement former des imams en France. Mm-hmm. Tout ça, il faut le combattre, mais l'éducation, du paquet dessus.
Oui, oui. D'ailleurs, l'école était l'un des piliers essentiels du discours que vous avez relu, je crois, Laetitia Krupa, d'Emmanuel Macron sur la lutte contre les séparatismes, et en l'occurrence le séparatisme islamiste.
Oui, j'ai relu cet après-midi ce discours au Mureau, et l'école était le troisième pilier de la stratégie. Mmh. Et alors, dans cette stratégie, il parlait de la déscolarisation, de l'enseignement des langues étrangères, des écoles hors contrat, mais il n'y avait rien sur l'islamisme infiltré dans l'école. Oui. On en parle à longueur de temps pour qualifier ce terrorisme qui frappe la France, ce nouveau terrorisme, cette menace endogène. C'est endogène à l'école de la République. Vous aviez raison tout à l'heure, Wendy, où vous disiez « Oui, mais ce sont des enfants de l'école de la République. » Et là, ce sont des parents d'élèves qui ont
fait ce choix.
Voilà, et qui sont montés au créneau, qui, en prenant à partie apparemment la proviseure, en leur disant que cet enseignement n'était pas tolérable dans l'enceinte de l'école. Ils se permettent donc de juger la qualité d'un enseignement, mais aussi sur les réseaux sociaux. On sait les dégâts que font ces réseaux sociaux sur un terreau de haine et des gens qui manquent peut-être aussi d'instruction et d'ouverture. Et on en termine avec un acte de barbarie à 17h en région parisienne. Là, il y a vraiment cette mécanique du pire qu'il faut à laquelle il faut s'attaquer. Il faut trouver absolument des moyens et l'État doit trouver des moyens pour déminer. Voilà, pour enlever ce poison qui est à l'intérieur de l'école de la
Bien
République.
Bien sûr, car sans ça, Philippe Moreau-Chevrelet, il y a deux réactions possibles et qui sont saines, j'allais dire, presque l'autocensure d'un certain nombre de professeurs qui n'oseront plus, parce que leur vie est en jeu, est en danger, eh bien embrasser ce type de sujet. Et puis la réaction de la hiérarchie, le fameux pas de vague qu'on entend régulièrement, qui étouffe ce type d'affaires, Philippe.
Oui, absolument. Alors, le problème de l'administration, et c'est valable dans à peu près tous les secteurs, c'est la politique du parapluie qui est très forte dans l'administration française. C'est l'empilement des hiérarchies qui n'ont pas forcément beaucoup de sens et qui empêchent la remontée de l'information. Il semblerait quand même que ce cas ait été signalé. Donc, il y avait le principal s'est retrouvé absolument tout seul à gérer cette situation, ce qui est le cas dans la plupart des cas. C'est-à-dire que pour avoir connu cette situation de près dans un autre cadre, le principal, la direction du collège ou du lycée, quand il y a ce type d'événement, se retrouve en général seul à devoir arbitrer des cas extrêmement complexes, soit d'agressions intervenues dans le cadre de l'établissement, soit en dehors. Ils ne sont pas équipés pour, ils ne sont pas formés pour, et ils ne savent pas à qui s'adresser parce que la hiérarchie censure souvent ce type de choses et ne veut pas s'en occuper. Et tant qu'on laissera en fait les professeurs, les chefs d'établissement, sans un dispositif peut-être spécifique d'alerte ou sans quelqu'un à qui parler, tant qu'on ne repeuplera pas finalement l'éducation nationale, oui, et de sanctions évidemment, ça continuera à être un problème. Mais vous savez, ça fait longtemps, enfin ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on laisse les établissements quasiment en autogestion sur le problème de la discipline et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer de ce type. C'est normal que ce type de crise finisse par arriver parce que là encore, on n'est pas équipé. Donc il faut quand même penser que les collèges, les lycées ont besoin de moyens humains, de gens qui s'en occupent. Ils ont besoin de moyens financiers aussi. Ils ont besoin qu'on repense l'organisation et qu'on les aide. Il ne faut surtout pas stigmatiser la communauté scolaire après tout ça. Il faut l'aider, mais il faut faire autre chose que des grands discours. Parce que les discours, ils les ont déjà entendus. Ce qu'ils veulent, c'est des moyens. Et pour l'instant, ça fait 10 ans qu'on les promet et qu'on ne les voit pas. Et on paye très cher l'absence de moyens dans nos services publics.
Mais il y a la peur aussi, les moyens, bien sûr, c'est indispensable, les moyens, mais il y a la peur. Comment conjurer cette peur qui gagne aussi le corps enseignant? Parce que ça, c'est pas concret, c'est difficile,
aux parents, aux grands-frères,
de donner des réponses.
La nébuleuse derrière, François Claus.
Oui, alors le rapport Aubin qui stigmatisait déjà tout ça,
oui.
et Monsieur Aubin, inspecteur de l'éducation nationale, a été obligé même de publier un livre pour qu'on l'entende, a été reçu en 2004 comme intéressant et mis sous le tapis. Donc ça, on peut espérer aujourd'hui que ce ne soit plus mis sur le tapis. Par rapport au travail à faire sur l'entourage, sur les quartiers, bien évidemment que c'est au niveau de l'Islam de France qu'il faut agir aujourd'hui, donner la parole, offrir une chronique quotidienne partout dans les médias à ces gens qui savent expliquer, comme le recteur de la mosquée de Paris, Monsieur Chemsé Idine Hafiz, l'imam de Bordeaux, qu'on lui donne la parole, qu'on entende cette parole de l'islam de France, pas seulement lorsqu'il y a un drame, mais au quotidien, pour nous expliquer que l'islam, c'est aussi une question de foi et d'éthique, et que ce n'est pas une idéologie mortifère, et que cette parole-là, au quotidien, dans les mosquées, on ne l'entend pas. Ce qu'Emmanuel Macron a dit à une vingtaine de kilomètres de Conflans-Sainte-Honorine il y a juste 15 jours sur la labellisation de la formation des imams, la responsabilité cultuelle avec une certification, la possibilité de les révoquer, oui, il est temps de le mettre urgemment en place.
Oui, pour qu'il n'y ait pas un choix binaire, hein, c'est-à-dire l'école de la République d'un côté, puis les écoles confessionnelles de l'autre, parce que c'est bien aussi ce qui peut se jouer. Que fait-on de ces élèves dont les parents refusent un certain type d'enseignement? Voilà. Ben, est-ce qu'on les déscolarise? Est-ce qu'on les vire de ces établissements? Et quels choix font-ils par ailleurs, Philippe Moreau-Chevrelet? Enfin, voilà, ce sont aussi des questions.
Quels sont les moyens coercitifs? Parce que ça peut être aussi sous la contrainte. Il y a un moment, la République, la loi de la République est inaliénable. Et c'est celle qui prévaut. Hein.
La coercition en matière d'école libre, ça a donné l'une des plus grandes manifestations de l'histoire française en 1984. Alors, dans l'enseignement catholique, il faut faire attention parce qu'on peut aussi provoquer une crise dont les effets peuvent être majeurs. Donc, l'idée, c'est quand même de rappeler que les établissements privés en France, ils sont en général, et il faudrait peut-être le rendre obligatoire sous contrat si ce n'est pas déjà le cas.
Oui.
Et ça veut dire qu'ils ont un cahier des charges. Voilà. Et il faut que l'État fasse appliquer le cahier des charges, détermine un cahier des charges, peut-être plus exigeant qu'il ne l'est actuellement, qu'il l'applique à la fois à toutes les religions de manière équitable et égale, pour pas qu'il y ait de sentiment de discrimination, ce qui suppose qu'il y a un travail de fait, parce que les imams radicaux se nourrissent d'un sentiment de relégation de l'islam aux confins de l'espace public, ils se nourrissent d'un sentiment de discrimination, donc il faut faire attention à ne pas donner le sentiment qu'on labellise cette religion par rapport aux autres, mais le contrat existe et il faut qu'il soit simplement renforcé, appliqué, qu'on se donne là aussi les moyens de vérifier que dans les établissements, on respecte et on enseigne la laïcité, même si c'est sous contrat.
La laïcité, mais aussi on verra quelle est la prise de position sur l'enseignement des religions à l'école de la République de Jean-Michel Blanquer, parce qu'il va falloir peut-être aussi rendre vraiment très obligatoire et déterminant cet enseignement, Laetitia.
Mais je suis d'accord, mais j'ai juste une question à poser. In fine, si les personnes ne respectent pas ce contrat, qu'est-ce qu'on fait?
On ferme l'établissement, c'est déjà arrivé, des fermetures d'établissements arrivent notamment pour les Montessori et on recase les élèves dans l'établissement, l'enseignement public. Ça se produit régulièrement quand on a des écoles Montessori qui ne respectent pas, qui vont tellement loin ou dans lesquelles il y a des abus sexuels ou des abus, des violences, ce qui arrive régulièrement, on ferme l'école. Et dans ce cas, il faut être impitoyable.
François Claus.
Oui, et dans le discours des Miro, alors on va voir comment dans la loi cela apparaît, comment sera appliquée cette loi après, mais il y aura l'élaboration d'une charte pour les imams demain en France et ils seront soumis à une révocation. Voilà, tout simplement, et qu'on l'applique. Et je suis très impatient d'attendre quel sera le sort judiciaire réservé à ces parents d'élèves qui, sur les réseaux sociaux, ont appelé quasiment au meurtre en traitant un enseignant de voyou. On va voir là également la réponse judiciaire. Et est-ce que notre code pénal est suffisamment armé par rapport à cela, l'espère.
Mais elle sera déterminante. Je me permets de citer le recteur de la mosquée de Paris que vous évoquiez, François Claus, qui s'est dit horrifié évidemment par ce crime. D'autant plus que cet attentat est commis au nom de ma religion, l'islam. Nous ne pouvons plus nous suffire de condamnation, tweet-t-il. Toutes les mosquées doivent agir et vite, ça suffit. Donc on fait le ménage aussi très clairement dans l'enseignement, dans l'exégèse qui est parfois complètement sortie de la bonne raison du Coran, Laetitia Crepa.
La parole des musulmans de France est plus que jamais attendue. Ça fait des années qu'on leur demande. On sait que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un leader désigné. Il y en a plusieurs. La prise de parole est difficile parce que c'est une religion qui est disparate. Mais plus que jamais, cette parole est souhaitable. Plus que jamais, nous appelons au micro devant les télévisions, sur les réseaux sociaux, les musulmans de France.
Donnons-leur la parole.
Je voulais citer de ce point de vue-là l'imam de Bordeaux qui, à midi, M. Tarek Ougrou, qui à midi rappelait que prendre en otage la République, c'est prendre en otage aussi la religion.
Merci beaucoup François Claus. Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Crepa. On vous retrouve demain pour notre émission spéciale consacrée à la culture et à la liberté d'expression. Bien évidemment, à 19h15, sur ce sujet, je reçois René Schiss, qui est professeur de philosophie, qui est membre du Conseil de l'éducation, et qui nous dira justement comment la religion a pénétré l'école et comment aujourd'hui, on a des armes quand on est enseignant. On peut au moins les trouver pour essayer de lutter comme intellectuel. Deux rendez-vous que je vous signale très importants sur l'antenne d'Europe 1. Demain, grand rendez-vous exceptionnel avec la présence notamment de Valérie Pécresse et de Manuel Valls. Et puis lundi matin, 8h15, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Merci beaucoup Laetitia Crepa, Philippe et François. On se retrouve dans un instant pour le journal.